Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comment refuser l'invitation de mon professeur à venir vous donner la parole? Et puis quand il m'a envoyé le texte, je me suis dit, ah mince, j'aurais peut-être dû y réfléchir avant. Pour ceux qui savent ce qui se vit à nos gens, notamment dans l'étude du texte de Romains par le professeur Sylvain Romerowski, on peut que se dire, mince, là, on va tomber sur un os, sûrement. Mais on va quand même avancer ensemble. En tout cas, merci pour la lecture du passage. Notre texte se situe dans Romains chapitre 5, versets 12 à 21. J'aimerais vous poser une question pour commencer. Y a-t-il des films que vous avez déjà vus plusieurs fois dans votre vie, mais que vous aimez revoir de temps à autre? Des films qu'on connaît même par cœur, hein. Par cœur, mais bon, ça fait toujours plaisir de le revoir de temps en temps. Moi, personnellement, il y a des films que j'aime bien revoir avec mon épouse, avec ma femme. Alors ne me jugez pas, s'il vous plaît, hein, c'est Titanic. Il est fort probable que vous connaissez tous ce film. En gros, c'est l'histoire d'un bateau qui coule. Voilà, je vais vous résumer le truc. Mais dans ce film, poussé par l'orgueil et surtout par la renommée, eh bien, le capitaine du bateau va justement ordonner, enfin donner comme indication de naviguer à vitesse maximum, à vitesse élevée, pour arriver plus tôt à New York, et tout cela dans une zone connue pour ces icebergs. Alors vous connaissez la suite, hein? Et à cause de cette décision, le navire percutera un iceberg, causant des dommages au navire et provoquant notamment son naufrage, avec provoquant aussi la mort de plus de 1500 personnes. La décision d'un seul homme a eu des conséquences terribles pour les passagers. Alors pourquoi je vous parle de ce film ce matin? Non pas que je vous fais de la pub, hein, mais bien que je vous le conseille parce qu'il est génial, hein, mais parce que la situation tragique, là, du Titanic, illustre assez bien ce qui se passe dans notre passage. Le choix d'un homme, Adam, a eu des conséquences terribles pour le reste de l'humanité. Humanité dont nous faisons tous partie, qu'on le veuille ou non. Nous sommes tous embarqués dans cette humanité en Adam, entachée par le péché et vouée à la mort. Tout comme les passagers sont embarqués dans le Titanic qui est destiné à couler. Nous avons beau savoir nager, on ne tiendrait pas longtemps dans une eau qui était estimée à moins 2 degrés. Nous avons finalement absolument besoin qu'un navire vienne à notre secours. Mais heureusement pour nous, l'histoire, notre histoire, n'a pas la même fin tragique que celle du Titanic. Jésus, un homme, Jésus, est venu et par un acte fort, nous a permis, il nous a, avec son acte, un acte fort, il nous a permis, eh bien, de sortir de notre humanité en Adam et d'entrer dans une nouvelle humanité qu'il a lui-même établie. Alors j'aimerais, dans ce passage, ce message, c'est sous deux angles que j'aimerais qu'on entre dans ce passage. Le premier sera mort en Adam, des versets 12 à 14, et le deuxième, vivant par grâce en Christ, des versets 15 à 21. Mort en Adam, vivant par grâce en Christ. Nous commençons par notre première partie, mort en Adam. Paul commence par expliquer que le péché et la mort sont entrés dans le monde par un seul homme. Nous comprenons rapidement là que Paul fait allusion à Adam, même si on le verra, même s'il ne le dit pas tout de suite au verset 12, mais il le dit au verset 14. On sait que Paul fait allusion à Adam et notamment au péché originel. Si vous voulez le lire, il se trouve en Genèse 3. Donc, je vous invite à le lire en rentrant chez vous tout à l'heure. Ce récit nous raconte comment le premier homme a péché contre Dieu, comment il a désobéi au commandement de Dieu qui était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors j'aimerais quand même attirer votre attention, avant d'aller plus loin, que beaucoup, pour beaucoup, ce récit n'est pas vu comme une réalité historique. Beaucoup de personnes pensent qu'Adam n'a pas existé. D'ailleurs, au niveau de la science, ça va même à l'encontre de la science. Sachez que même des chrétiens pensent que Adam, l'histoire là du péché originel dans le jardin, n'est qu'un mythe, une fable, qui permet simplement d'expliquer comment le péché est entré dans le monde. Mais nous pensons qu'il y a de bonnes raisons de croire et de continuer à croire que Adam a réellement existé historiquement. Et l'une des raisons qui me convainc personnellement, c'est que Jésus est venu dans le monde mourir pour le péché. Jésus est venu mourir, et Jésus est venu historiquement, physiquement, dans notre histoire, mourir pour un péché qui existait, un péché historique. Si Adam, l'histoire d'Adam et Ève était qu'une fable, Jésus serait venu mourir pour une fable. Nous devons maintenir l'historicité du récit de la Genèse, du récit d'Adam et Ève. En tout cas, revenons à la faute d'Adam. La faute commise dans le jardin, ce n'est pas juste d'avoir mangé du fruit. Parce qu'aujourd'hui, on encourage les gens à manger des fruits. Mais c'est ce qui symbolise. Dans le jardin, Adam et Ève devaient vivre sous la dépendance du Dieu créateur et bon. Ils devaient faire confiance dans le fait que Dieu prendrait soin d'eux en leur disant ce qui est bon ou mauvais pour eux. Moi, j'ai 3 enfants, vous les avez peut-être vus là. Et il y a des fois où moi, je dois leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire. Et vous êtes sûrement d'accord avec ça. Lorsque j'ai dit à mes enfants de ne pas jouer avec une paire de ciseaux, eh bien, c'est parce que moi, je sais qu'ils peuvent se blesser. Même si eux ne sont pas forcément conscients. Et donc, ils sont dans une position où ils doivent me faire confiance dans le fait que je sais mieux qu'eux, à ce moment-là, ce qui est meilleur pour eux. Le fait qu'Adam ait mangé le fruit à la suite d'Ève, c'est le moment qui a marqué le tournant de l'histoire de l'humanité. Manger du fruit de l'arbre équivaut à revendiquer son autonomie, son indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est de dire au Créateur qu'il n'a pas besoin de lui en tant que créature. C'est de vouloir son autonomie morale, de décider, définir soi-même ce qui est bien ou mal. Et si vous souhaitez illustrer cela, il suffit d'observer les conflits aujourd'hui qui se passent en Europe ou au Moyen-Orient. Chacun agit en fonction de ce qui lui semble bon. Et on voit que c'est dramatique. Le bon, le bien qui est défini par Dieu ne fait plus partie de l'équation. Et c'est le mal, la mort qui règne. L'apôtre Paul dit que le péché a entraîné la mort. Et par la mort, nous pouvons parler de la mort physique et de la mort spirituelle comme conséquence de la faute d'Adam. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on vit encore, bien sûr. Et puis il y en a qui ne croient pas en Dieu et ils vivent encore. Mais j'aime à dire que, à prendre comme image celle du téléphone portable. On sait tous que si on débranche le téléphone du chargeur, il fonctionne encore. Mais arrivera à un moment donné où il n'y aura plus de batterie, il s'éteindra. Si on ne se reconnecte pas à la source d'énergie, le chargeur, le téléphone va s'éteindre pour toujours. C'est pareil pour Dieu. Se déconnecter de Dieu, c'est se déconnecter de la source de vie. Cette mort nous atteint tous. La mort, suite à la faute d'Adam, nous atteint tous. À cause d'une certaine solidarité avec Adam. Regardez la construction en fait du verset 12. Elle forme en fait ce qu'on appelle un chiasme. Par un homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce n'est peut-être pas évident aujourd'hui de parler de solidarité avec Adam, surtout dans une société occidentale comme la nôtre, autant axée sur l'individualisme. Peut-être pourrait-on se dire, pourquoi on devrait payer pour la faute de quelqu'un d'autre? Mais Paul n'est pas en train de dire ici que on paye seulement pour la faute de quelqu'un d'autre. Paul est lucide quand il écrit cela. Rappelons, et vous l'avez sûrement vu, dans les trois premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul est en train de faire la démonstration, il fait la démonstration que chaque homme est personnellement responsable de sa faute et est coupable devant Dieu pour sa propre faute. Ce que Paul veut nous expliquer ici, c'est qu'il y a une raison de la présence du péché dans nos vies, et c'est qu'Adam, par sa faute, a fait entrer le péché dans le monde. Ainsi, alors peut-être on pourrait dire, mais moi j'ai pas demandé à être solidaire d'Adam. Mais la solidarité, c'est quelque chose qui est présent dans le monde. Si demain le président de la République déclare la guerre à la Russie, en tant que citoyen français, on est tous en guerre. On ne peut pas dire, mais moi je ne veux pas être en guerre, je ne suis pas en guerre. En fait, on est solidaire de ça. Alors peut-être d'un point de vue plus positif, j'imagine que en 2018, hein, quand la France a gagné la Coupe du Monde, ben en fait, on a dit, on est champion du monde. C'est 2018 qu'ils ont gagné, c'est ça, 2018, hein, je ne dis pas de bêtises. En tout cas, quand on a été champion du monde, on a dit, on est champion du monde, hein, on n'a pas dit l'équipe de France. Donc il y a une certaine solidarité aussi à ce niveau-là. Et puis la solidarité, elle se voit dans le péché. Cette solidarité dans le péché se voit aussi dans l'expérience humaine. Quand j'étais plus jeune, moi, mes parents me disaient souvent, me répétaient souvent ça, peut-être parce que je l'étais, ils disaient, on apprend toute notre vie à ne pas être paresseux. Mais on le devient en 3 jours. Peut-être que j'étais un peu trop paresseux, mais tout ça pour dire qu'en fait, on n'apprend pas à faire le mal. On éduque un enfant, éduquer un enfant, c'est l'éduquer à faire le bien. Jamais l'inverse. D'ailleurs, on n'a pas besoin de l'éduquer pour ça. L'expérience que j'ai avec mes enfants, c'est que du jour au lendemain, ils apprennent des nouveaux gros mots. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils apprennent des nouvelles choses. L'expérience de la solidarité du péché, elle se vit dans le quotidien. Et en même temps, et en réalité, même si on se désolidarisait d'Adam, je ne pense pas qu'on aurait fait mieux que lui. Voici pour le verset 12, plus que 9 versets. Non, je plaisante. On ne va pas faire tout en détail. Hein. En fait, ce passage-là, c'est un condensé théologique avec des arguments, des interprétations pas toujours évidents à saisir. Et nous n'avons certainement pas le temps hein, de rentrer dans le détail de tous ces versets, mais nous pouvons toutefois dire 2 mots des versets 13 et 14. En fait, syntaxiquement, le verset 12 est une phrase qui n'est pas terminée. Ça ne se voit pas dans nos traductions, je pense, mais en fait, il manque un bout de phrase. Paul est en train de parler et au milieu de ce qu'il écrit, il s'arrête et il ouvre une parenthèse. Alors, il fait souvent hein, dans ses épîtres, il ouvre une parenthèse qui va du verset 13 à 17. Et ce n'est qu'au verset 18 qu'il va terminer sa phrase. Et ce qu'on lit au verset 13 et 14 semble nous dire, enfin Paul semble nous dire que ceux qui n'ont pas la loi, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu la loi de Moïse, hein, entre la période d'Adam et Moïse, eh bien ceux-là, le péché n'est pas compté, puisque c'est avec la loi qu'on peut compter. C'est que avec la loi qu'on sait qu'il y a une infraction. Et pourtant, Paul ne dit pas vraiment que ces gens-là n'ont pas péché. Il dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ce qui veut dire que finalement, même s'il n'y a pas de loi dictée, évidente, les hommes pêchent quand même. Et c'est ce qu'il a développé au chapitre 2 de l'Épître aux Romains. Ceux qui n'ont pas la loi, il disait ceux qui n'ont pas la loi, mais qui agissent naturellement, selon ce que prescrit la loi, montre qu'ils ont la loi écrite dans le cœur. L'homme a une conscience au fond de lui, une certaine connaissance du bien et du mal. L'homme n'est pas foncièrement mauvais au plus haut niveau dans tous les aspects de sa vie. Non, l'homme, même sans Dieu, peut faire du bien. Mais l'ambiance générale, quoi qu'il arrive, l'ambiance générale du monde et de l'humanité, c'est l'ambiance de la mort qui domine par le péché. Il y a une solidarité dans le péché avec Adam, parce que notre péché est la continuité de celui d'Adam. Alors, je dois avouer que le tableau qu'on a dressé jusque-là n'est pas très encourageant, mais dire que nous sommes solidaires d'Adam et que Adam nous a représentés dans la faute peut étrangement être aussi une source d'encouragement. Car si Adam a pu nous représenter devant Dieu, alors un autre peut nous représenter devant Dieu. Nous n'avons pas à nous présenter nous-mêmes avec nos péchés pour essayer de nous en sortir. Jésus peut et va nous représenter devant Dieu. Et c'est ça la grâce. Et c'est ce que nous allons voir dans notre deuxième point, vivant par grâce en Christ. Dans des versets 15 à 17, Paul va comparer Adam et Jésus. Cette comparaison va permettre tout d'abord, non pas de voir les similitudes, mais de voir justement les dissemblances. Paul veut montrer qu'en Christ, la grâce surpasse de loin la faute. Au verset 15, la première comparaison, en tout cas, la première chose qui est totalement en contraste, eh bien, c'est la faute d'Adam. La faute d'Adam est le don gratuit de Jésus. La faute d'Adam a consisté à s'affirmer devant Dieu. Adam n'a pas accepté son statut de créature et a revendiqué un autre statut qui n'est pas le sien. Le don gratuit de Dieu a consisté, le don gratuit de Jésus a consisté à consentir à se donner pour le bien de l'humanité. Jésus n'a pas revendiqué son statut de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant l'apparence d'un serviteur prêt à donner sa vie pour beaucoup. La deuxième opposition concerne les conséquences de ces actes. Alors que l'acte d'Adam conduit au jugement de Dieu, celui de Jésus entraîne l'acquittement. Mais regardez de plus près la phrase, le verset 16. Il dit « En effet, c'est après un péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit de Dieu entraîne l'acquittement de Dieu après un grand nombre de fautes. » Le jugement de Dieu n'a suivi qu'une seule faute, qu'un seul péché, alors que le don gratuit de Dieu a suivi de nombreuses fautes, nombreuses offenses. Alors, on se serait attendu à ce que de nombreux péchés attirent plus de jugements. Mais la grâce opère un calcul différent. Un commentateur écrit « Qu'une seule faute soit sanctionnée par un jugement est parfaitement compréhensible. » Mais que les péchés et la culpabilité accumulés au cours des siècles soient sanctionnés par le don gratuit de Dieu, c'est le miracle des miracles qui dépasse totalement l'entendement humain. La réponse de Dieu aux nombreuses fautes, c'est le don de la grâce. En réponse à notre propre offense, à nos nombreuses fautes, Dieu nous offre le pardon et la vie. Quelle grâce! Personnellement, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai fréquenté l'église depuis tout petit. Et j'ai grandi avec la connaissance, en tout cas j'ai très vite compris la notion du péché, celle du jugement. Et je savais que, avant d'être chrétien, je savais qu'être chrétien, bien, c'était d'accepter Jésus dans son cœur comme sauveur et seigneur. Mais être chrétien pour moi, c'était aussi une bonne personne. Qui ne pêche pas ou plus beaucoup, qui était un peu plus pur. Et avant ma conversion, j'ai longtemps été tourmenté par cette idée de ne pas être assez digne, de ne pas être assez bon pour être chrétien. Je me disais qu'il fallait que j'aille plus à l'église, que je chante là dans la chorale de mon église, que je participe au groupe de jeunes. Peut-être que je traîne un peu moins avec mes amis non-croyants, avec qui je menais une vie loin de Dieu. Mais un jour, lors d'un camp, chrétien, je me rappelle, un camp de jeunes chrétiens, durant une étude justement dans l'Épître aux Romains, alors je ne sais plus si c'était ce passage-là, mais une étude biblique, un pasteur a dit, vous savez, Dieu n'attend pas quelque chose de votre part. Il n'attend pas que vous soyez une meilleure personne. Ce qu'il veut, c'est que vous veniez à lui en acceptant que c'est lui qui a tout fait pour vous. Vous avez juste à le recevoir. Alors c'était d'une simplicité ce qui avait été dit, mais ce jour-là, ça a bouleversé ma vie. Et c'est ce même jour que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'aimerais, cher ami, vous dire la même chose. Peu importe votre passé, peu importe les fautes que vous avez commises, il n'y a aucun péché qui ne soit trop lourd que Jésus n'ait pu porter à la croix. Dieu n'attend pas que vous soyez une meilleure personne pour vous accepter. Ce qu'il désire, c'est que vous veniez à lui tel que vous êtes, reconnaissant que vous êtes embarqué à bord de cette spirale du péché et de la mort et que vous ne pouvez pas vous en sortir par vous-même. En Jésus, Dieu vous offre son pardon et vous donne la vie. La troisième différence concerne la mort et la vie. Paul dit, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Cette différence insiste sur la générosité de Dieu. Si par un acte la mort a régné, on s'attendrait à ce que Paul dit, par Christ, la vie a régné. Mais ici, ce n'est pas une inversion, c'est un bouleversement complet. Non seulement la mort ne règne plus sur nous, ne règne plus, mais ceux qui règnent dans la vie sont les bénéficiaires de la grâce. Auparavant, la mort était notre roi et nous étions ses sujets. Nous étions esclaves de sa tyrannie. Ce que Christ a fait pour nous, ce n'est pas simplement d'échanger le royaume de la mort par le royaume un peu plus doux de la vie, tout en nous laissant dans la position de sujet. Au contraire, il nous délivre de la domination de la mort de manière si radicale qu'il nous permet de changer de place avec elle et de régner sur la mort ou régner dans la vie. La mort n'aura pas le dernier mot puisque nous régnons dans la vie avec Christ. Pour illustrer ça, l'histoire de Cendrillon, par exemple. Alors, j'ai beaucoup de Disney parce que j'ai eu 3 enfants en bas âge, mais l'histoire de Cendrillon peut nous aider peut-être à saisir. Hein. On connaît aussi tous l'histoire de Cendrillon, et ça, c'est pas de la pub, hein, mais si vous voulez le regarder, allez-y. Mais après le décès de son père, Cendrillon se retrouve à être élevé par sa belle-mère, qui se révèle être une femme cruelle et jalouse. Et ses deux demi-sœurs étaient tout aussi méchantes. Elles firent de Cendrillon leur servante et l'obligeaient à accomplir toutes les tâches ménagères de la maison. Et après des péripéties que je vous passe, au final, à la fin, Cendrillon ne sera pas simplement délivré de sa belle-mère, retiré de son lieu de misère pour être placé dans des conditions plus favorables. Non, elle prendra place aux côtés du prince, devenant elle-même la princesse qui régnera sur tout le royaume. Plutôt, nous disions que nous sommes solidaires d'Adam, dans le sens qu'Adam a été notre représentant devant Dieu. Son acte de désobéissance a fait venir le péché et la mort dans le monde. Par sa faute, nous sommes tous condamnés. Est-ce que c'est injuste? Si nous trouvons injuste d'être représenté par Adam, alors est-ce qu'on trouverait tout aussi injuste d'être représenté par Christ? Si nous recevons la mort par solidarité avec Adam, nous pouvons aussi recevoir la vie par notre solidarité avec Jésus par la foi. En réalité, on perd avec Adam, mais on gagne beaucoup, beaucoup plus avec Jésus. En Jésus, nous passons de la mort à la vie. Paul continue et termine sur le fait que la grâce surpasse la faute. Il termine au verset 20-21. Paul va refaire intervenir la loi au verset 20. En fait, la loi ici permet d'identifier clairement le péché. Elle permet de l'identifier clairement et elle permet aussi de se rendre compte de la multitude de fautes commises. Durant les années 1920, les États-Unis ont mis en place une nouvelle législation appelée la prohibition. La prohibition qui interdisait justement la fabrication, la vente et le transport de boissons alcoolisées. L'objectif de la prohibition était de réduire la criminalité, la corruption, les problèmes de santé et promouvoir la moralité. Cependant, les effets réels furent assez différents. Il y a eu une augmentation de la production et de la distribution illégale. Il y a eu de la corruption des forces de l'ordre et des responsables politiques qui fermaient les yeux sur ces activités illégales. Il y a eu des problèmes économiques dus au marché souterrain. Il y a eu aussi des problèmes dus à la consommation d'alcool frelaté, l'alcool mal, on va dire, préparé. Finalement, cette loi fut abrogée en 1933, suite à de conséquences imprévues et négatives. Ici, la loi de la prohibition n'a pas permis de produire l'effet pour lequel elle avait été votée, mais elle a produit l'inverse. Et c'est un exemple qui illustre en fait l'idée que Paul est en train d'énoncer ici. La loi n'a pas permis de restreindre, de diminuer le péché. Au contraire, la loi a multiplié les offenses en révélant la profondeur et l'étendue du péché de l'homme. Elle a servi de miroir pour montrer aux hommes leur condition pécheresse. Cependant, Paul ne s'arrête pas à la multiplication de péchés. Il poursuit en affirmant que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce manifestée en Jésus-Christ surpasse largement la condamnation apportée par le péché. Même si le péché est grand, la grâce de Dieu est infiniment plus grande et suffisante pour racheter tous les péchés. Cette abondance de grâce est pour nous une raison suffisante pour louer Dieu. Malgré nos fautes incalculables, Dieu nous fait grâce. Et cette grâce nous pousse à l'humilité et à la dépendance de Dieu, car nous n'avons rien fait pour le mériter. Mais cette grâce ne revêt pas qu'une dimension verticale, mais elle a aussi une dimension horizontale. Car si Dieu nous fait grâce, nous offre son pardon, malgré nos nombreuses offenses, nous sommes aussi appelés à faire grâce envers ceux qui nous ont offensés. Enfin, la grâce suprême, c'est celle de la vie éternelle, offerte en Jésus. Oui, Adam, par qui la vie devait se multiplier, a fait venir la mort. Mais Jésus, lui, est venu mourir afin de donner la vie en abondance. Alors pour finir, nous sommes tous venus dans ce monde à bord du Titanic finalement, au milieu de l'océan. Et nous n'avons pas d'autre lieu et d'autre choix que de rester sur ce navire qui est destiné à couler. Nous n'avons pas d'autre choix que de compter sur une intervention extérieure. Et Jésus est venu. Il est venu et a proposé de monter sur son bateau. Et plus que cela, il a cédé sa place pour que tous ceux qui le veulent puissent monter à bord et avoir la vie. La question qui se pose à nous aujourd'hui, sur quel bateau êtes-vous ? De quelle humanité êtes-vous solidaire ? Est-ce l'humanité en Adam ou celle en Christ ? Si vous êtes encore en Adam, sachez que vous avez la possibilité de passer en Christ, de recevoir le statut de juste devant Dieu, d'être réconcilié avec Dieu de recevoir la vie éternelle. Aucun acte ne vous est demandé. Christ a tout payé. Vous n'avez qu'à recevoir son don gratuit. Si vous êtes en Christ, alors soyez reconnaissant de la vie que Dieu vous donne. Acceptez que la grâce de Dieu est suffisante pour couvrir toutes vos fautes et vous libère de la culpabilité, vous permettant de vivre en paix. Soyez conscient que la grâce n'est pas un permis pour pécher davantage même, mais une motivation pour vivre une vie transformée par gratitude. Concrètement, qu'est-ce qu'une vie transformée? Eh bien, une vie transformée, c'est une vie en relation avec celui qui l'a transformée. Passons du temps dans la prière, prenons du temps pour parler à Dieu. Peut-être que la première chose qu'on peut faire le matin en se réveillant n'est pas de prendre son téléphone pour se connecter à notre vie numérique, mais de se connecter à Dieu par la prière. Une vie transformée, c'est une vie qui connaît celui qui l'a transformée. Ne restons pas sur nos acquis et sur nos connaissances bibliques. Dieu est un puits sans fond de mystère et de beauté à découvrir. Et je peux vous en témoigner, certains peut-être ici peuvent vous en témoigner, plus je creuse la parole de Dieu, que ce soit personnellement ou à la fac de théologie, je continue à être émerveillé du grand Dieu que nous avons. Alors je vous encourage à poursuivre l'étude de la parole de Dieu à travers peut-être des formations bibliques. Saint-Maur, je pense, ce n'est pas très loin de nos gens. C'est pas très loin. Pourquoi pas envisager cette année de prendre un peu de temps pour suivre quelques séminaires. Une vie transformée, c'est une vie qui rend témoignage de celui qui l'a transformée. Un don si précieux ne peut pas être gardé que pour soi. Un Dieu si grand mérite qu'on parle de lui. Et tant de personnes dans notre entourage proche ne connaissent pas encore Dieu, ou sont encore dans l'humanité en Adam. La grâce de Dieu doit nous motiver à parler, à leur parler du danger dans lequel ils se trouvent, mais aussi de la solution apportée en Jésus-Christ. Pourquoi ne pas aborder ce sujet avec eux la prochaine fois que vous les voyez? Préparez cette rencontre, cette discussion dans la prière. Demandez à Dieu de rendre le moment propice pour parler de Dieu. Et enfin, chers amis, en nous quittant, soyons fermement convaincus que si la faute d'Adam a provoqué la mort, à combien plus forte raison l'œuvre du Christ fera-t-elle surabonder la vie? En Jésus, nous sommes passés de la vie à la mort. Merci à tous.